Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette émission spéciale consacrée aux révélations de Congo Hold Up. Un énorme travail d'enquête mené par 5 ONG et 19 médias, dont RFI. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Sonia Rollet du Service Afrique est toujours avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Lumumba. Bonjour.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à nos auditeurs. Vous êtes l'ancien chef du département des engagements de la filiale congolaise de cette fameuse banque BGFI. Vous êtes surtout lanceur d'alerte. C'est vous qui aviez révélé le premier des irrégularités, des retraits douteux, des fraudes. C'était en 2016. Qu'est-ce qui vous avait décidé à l'époque ?
Ben, vous savez, je l'ai fait dans le cadre de mon travail. Il fallait pas pour moi pouvoir cautionner des choses que j'ai qualifiées de d'horribles et qui étaient très nuisibles pour l'intérêt du peuple congolais. Et ce qui est arrivé aujourd'hui ne fait que le confirmer.
Alors, on a reçu un appel de Kinshasa à propos de cette banque qui est donc au cœur du scandale et que vous avez quitté, Jean-Jacques Lumumba. Bonjour Edith Divin.
Bonjour Anne Campner, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Quelle est votre question ?
Effectivement Anne, ça fait plusieurs fois que la BGFI Bank se retrouve dans des opérations suspicieuses. Pourquoi la Banque Centrale du Congo n'a-t-elle pas joué son rôle de régulateur ?
Alors avant de vous répondre, on va peut-être de nouveau passer la parole à Jean-Jacques Lumumba. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que vous aviez dénoncé vous en quittant la BGFI ?
Ben, en quittant la BGFI, j'avais déjà dénoncé ces fonds douteux qui venaient de la Banque Centrale du Congo et qui avaient bénéficié à la Société Égale à l'époque. J'avais dénoncé les malversations qui s'étaient passées sur le compte de la CENI et de plusieurs malversations qui se passaient sur le compte de la GECAMINE. Donc c'est ça que les journalistes en 2016 ont appelé les Lumumba Papers.
Sonia Rollet, on l'a évoqué rapidement dans la première partie de l'émission. Comment se fait-il que la Banque Centrale n'ait pas pu ou voulu mettre un terme à ces opérations frauduleuses ?
Alors justement, en fait, ce que révèle notre enquête, et c'est ce qui va au-delà un petit peu de ce qu'avait fait déjà Jean-Jacques Lumumba, qui avait vraiment, et ça on peut le dire, hein, beaucoup, enfin en tout cas identifié les principaux problèmes à la BGFI, c'est Lumumba Papers identifier quand même les principaux problèmes à la BGFI, ça c'est sûr. Par rapport à la Banque Centrale, c'est plutôt qu'en fait cette banque, au lieu de jouer son rôle de régulateur, a participé en fait à ces détournements. On découvre par exemple l'existence d'un compte dont on ne sait même pas s'il est fermé, BCC Équipement, donc un compte à la BGFI, qui va servir à déposer les fonds qu'on va voir partir vers des sociétés donc du premier cercle de Joseph Kabila. Donc, à partir de ce moment-là, en tout cas, c'est les questions qu'on a essayé de poser à l'époque à Deogratias Mutombo, qui a malheureusement refusé de nous répondre. C'était d'essayer de comprendre justement quel était son rôle. Est-ce qu'il était sous pression ? Est-ce que c'est lui-même qui passait ses ordres ? Voilà, qui était à la tête de la Banque Centrale. Malheureusement, il n'a pas accepté de nous répondre. La Banque Centrale, on l'a interrogé aussi pour savoir comment pouvaient avoir lieu ces transactions. Est-ce que ça respectait la loi congolaise ? Parce que la loi congolaise, il y a une nouvelle loi sur la Banque Centrale depuis 2018 qui quand même était beaucoup plus restrictive qu'auparavant. Et de savoir s'il y a des mesures qui ont été mises en place pour endiguer ces détournements et notamment pour fermer ce compte de la BCC Équipement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse sur tout ça, donc c'est des choses sur lesquelles on attend des réponses à l'avenir.
Donc on ne sait pas encore, Edith Divin, les enquêtes se poursuivent donc pour essayer de comprendre pourquoi la Banque Centrale a plus participé que régulé tout ce qui s'est passé ces dernières années. On a reçu beaucoup de commentaires aussi sur ces révélations. Philippe, notamment, nous appelle de la capitale congolaise. Philippe, est-ce que vous êtes surpris par ce que montre cette enquête Congo Hold Up ?
Personnellement, pas trop. Parce que la prédation était connue. Tout ce que je peux personnellement dire au sujet de cette enquête, c'est que les seuls bénéfices que je peux avoir, c'est peut-être les process. Comment ils ont monté les réseaux pour pouvoir réaliser toutes ces opérations. Mais en fait, les vols, la prédation, c'est quelque chose qui ne peut pas être nouvelle pour l'opinion congolaise. Bon, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quelle est la motivation de ces enquêtes, de ces révélations ? Parce que je ne veux pas qu'on vienne me dire que ces révélations veulent prouver qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous aime mieux que ceux qui nous dirigent ici.
Pour vous, il y aurait un agenda caché ?
Je me pose bien la question, parce que est-ce que celui qui est inculpé ou présumé dans cette affaire est-il en train de. Est-il dans le viseur de certaines forces ou puissances étrangères qui voudraient bien les liquider parce qu'ils gênent? On ne sait pas, je me pose bien la question. Parce que celui qui est là aujourd'hui avait décidé de ne pas fouiner dans le passé. Et que. Quelle est la motivation?
Parce que ce n'est pas. Ne pas fouiller dans le passé,
nous
c'est effectivement.
Nous avons entendu parler de le Panama Papers qui est resté carrément étouffé dans l'œuf. Quelles ont été les conclusions? Quelles ont été les conséquences de cette enquête sur Panama Papers?
Alors, les conséquences judiciaires, on les attend. En tout cas, il y a eu des révélations journalistiques, des enquêtes, exactement comme dans ce cas-là. Effectivement, le président Tshisekedi avait dit qu'il ne voulait pas fouiller dans le passé. Sur le timing, justement, sur la publication de cette enquête, Sonia Rollet.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces documents ont été obtenus par donc, le site d'information Mediapart et par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte d'Afrique. Donc, en général, quand une fuite de données arrive comme ça, il y a tout un système qui se met en place. Il n'y a pas de timing précis parce que d'abord, il faut mettre en place l'équipe, il faut évaluer quelle est l'importance de ce leak, son authenticité aussi. Donc, c'est du travail qui a été fait en amont. Ça prend quand même du temps d'arriver à comprendre ce qu'il y a dans les données. Donc, penser qu'il y a un timing ou qu'on a établi un timing particulier, non. Et puis, de savoir ce qu'on allait avoir dans ce leak-là, dans cette fuite de données-là, on l'a découvert un peu en le voyant, quoi. C'est vraiment des choses qui se sont faites. Les sujets, encore tout récemment, étaient en train d'être séparés en se disant, bon, mais ça, il y aura certainement encore des révélations beaucoup plus tard parce qu'il y a beaucoup trop de données pour qu'on puisse tout faire d'un seul coup et que, bah, on a fait le plus pressé, ce qui nous paraissait le plus urgent, à savoir les mécanismes de détournement et toutes les techniques de détournement. Donc, c'est ça qu'on a essayé de documenter. C'est vrai que tous ces faits sont connus et on le rappelle beaucoup dans nos histoires, notamment sur RFI, qu'en fait, si vous demandez à n'importe quel Congolais dans la rue de vous dire qu'est-ce qui appartient à Joseph Kabila ou qu'est-ce qui appartient à son premier cercle, ils sont capables de vous les montrer comme ça. Et ils ont raison, les trois quarts du temps. C'est ça qui nous a vraiment surpris. Pour beaucoup des opérateurs sur lesquels on enquêtait, on pouvait déjà demander à n'importe quel Congolais. Il en savait déjà plus que nous au départ.
Enfin, après, il faut le prouver. Et donc, pas d'agenda.
C'est tout le travail qui a été fait.
D'abord, on récupère des milliers de documents. Puis, il faut les analyser. Et puis, compiler, vérifier, recouper ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et donc, publier. On va accueillir un nouvel auditeur. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en Facebook Live sur la page de RFI et sur la page de l'émission Appel sur l'actualité. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de la radio France Internationale.
Vous avez voulu commenter aussi ces révélations Congo Hold Up.
Vraiment, merci. Merci pour la parole. Mais c'est que la question que nous nous sommes posée d'abord, qu'il faut encore combien de rapports pour qu'il y ait, ou bien pour qu'on engage des actions judiciaires contre les auteurs des crimes économiques et crimes contre les humanités. Nous avons eu des rapports des Nations Unies, où on a cité des noms, on a cité des pays et consorts. Il y a encore les rapports des docteurs, les rapports mapping des docteurs Mukwege, où on a encore cité des noms et c'est resté sa conséquence. Aujourd'hui, nous avons les rapports des Congo Hold Up, qui vient encore de citer des noms et que nous craignons que ça puisse encore rester sa conséquence. Notre souci et notre question majeure est de savoir. Donc nous devons encore avoir combien de rapports pour qu'il y ait des poursuites judiciaires, pour qu'on puisse engager des actions concrètes, pour qu'on puisse engager des actions judiciaires contre tous les auteurs des crimes économiques, contre tous les auteurs des crimes contre les humanités et ainsi de suite. C'est ça notre grande question.
Jean-Pierre, vous restez avec nous. On va accueillir Olivier qui est en ligne de Kinshasa. Ah non, Olivier, la ligne a coupé, on va essayer de le rappeler un petit peu plus tard. En attendant, on va retrouver Théophile, toujours sur cette question des poursuites judiciaires. Je crois que vous aviez une question pour Sonia Rollet.
Oui, j'ai une question. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, ma question est de savoir, peut-il y avoir des poursuites judiciaires et des sanctions contre le cercle Kabila? Oui, est-ce que ces millions de dollars pourront-ils être récupérés par la RDC un jour?
Alors Sonia Rollet, la ministre de la Justice, a annoncé que le parquet avait été saisi. Mais pour l'instant, c'est la banque BGFI qui semble assumer toutes les responsabilités. On a l'impression, et d'ailleurs l'inspecteur général des finances que vous avez rencontré explique que, en fait, il a du mal à aller plus loin.
Alors, sur le cas d'Egal, donc de cette société d'importation de poissons et de viande, effectivement, les éléments qu'on a à l'heure actuelle et qui nous ont été transmis d'ailleurs par l'inspection générale des finances, c'est que la BGFI aurait reconnu sa responsabilité dans un détournement qu'elle n'a pas commis, en tout cas pas commis seule, et dont elle n'a pas bénéficié, puisque c'est pour nous, et ça c'est l'un des points évidents de l'enquête, c'est bien la société Egal qui a non seulement dépensé les 43 millions qui font partie de ce scandale et dont on parlait depuis longtemps, mais sans doute plus de 34 millions de fonds supplémentaires d'origine douteuse. Quand on dit d'origine douteuse ou suspecte, c'est parce qu'on pense que ce sont des fonds publics, puisqu'ils proviennent d'un compte de la BGFI à la Banque Centrale, mais qu'on ne peut pas remonter plus haut. Donc on ne peut pas dire oui, ça vient du Trésor public. Donc là-dessus, oui, et l'enquête était ouverte. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'insiste Jules Alinguette, le patron de l'IGF, c'est de dire qu'il y a une enquête ouverte depuis mai, la justice n'a qu'à faire son travail. Moi, mon travail, c'est de récupérer l'argent, c'est ce qu'il essaie de faire. Maintenant, c'est à la justice d'opérer. Depuis mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Depuis ces différentes saisies et ce qui a pu être fait, on a essayé de parler au procureur qui n'a pas voulu rentrer dans les détails du dossier mais qui nous a confirmé l'ouverture de cette enquête. Pour le reste, c'est vrai que dans toutes les autres révélations, on essaie quand même d'être très précis sur les comptes, les jours, les montants, les destinataires, la manière dont ça s'est passé, y compris sur quand on a pu retrouver des propriétés à l'étranger, comme c'est le cas des propriétés pour Francis Selemani, le frère adoptif de Joseph Kabila, qui était directeur général de la BGFI. Donc, en tout cas, on ne manquera pas de données s'il s'agit de lancer des poursuites. Cette fois, je pense que la presse a mis à disposition, a rendu public, y compris en rendant public des documents, des informations qui sont détaillées au jour près. Et au montant près, au centime près.
Et quand la ministre de la Justice annonce que le parquet est saisi, ça porte sur quoi ? Est-ce que c'est nouveau aussi, le fait que là, il y ait une information judiciaire ouverte ?
Alors, en fait, c'est qu'elle a simplement fait une recommandation au parquet de se dire « saisissez-vous de ces révélations, on entend toutes ces affaires ». C'est d'ailleurs ce que rappelait aussi le porte-parole du gouvernement, de dire « on ne peut pas rester insensible en fait, à ces révélations ». Donc, ce serait à la justice, c'est un peu renvoyé à la justice le fait de faire son travail, puisqu'elle peut s'autosaisir sur base de ces révélations, demander, faire une instruction. Elle est complètement libre. Est-ce que ça veut dire qu'une information judiciaire est ouverte sur un cas particulier ? Non, parce qu'on n'ouvre pas une information judiciaire en général sur des révélations faites par des journalistes. On va lancer une information judiciaire sur base d'un dossier, parce qu'on s'est saisi de ce dossier-là. Et par article, je pense qu'il y en a peut-être 5, 6, 7, 8 parfois histoires qui pourraient mériter, en tout cas, qu'un service d'enquête ou un service d'État au Congo s'intéresse à ces révélations. Il y a aussi les ministères qui pourraient s'y intéresser. Il y a aussi les institutions qui sont mises en cause, qui pourraient s'y intéresser, parce qu'il y a du contrôle interne, il y a des sanctions qui peuvent être prises en interne, et tout ça, ça ne demande pas d'attendre la justice.
Mais donc d'abord des enquêtes. Jean-Jacques Lumumba, après vos révélations, il y avait eu des audits à la BGFI, qu'est-ce que ça a donné ?
Ben, il y a eu des audits qui ont très clairement montré, selon les révélations, que la banque avait un niveau de contrôle qui était catastrophique et très inquiétant. Et donc ce qui a prouvé que tout ce que j'avais dit était vrai, était correct. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait.
On va accueillir Olivier, qu'on a essayé de joindre tout à l'heure, qui est en ligne de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs.
Olivier, on entendait tout à l'heure Jean-Pierre nous dire qu'il y avait déjà eu un nombre incalculable de rapports qui dénonçaient des fraudes, des détournements et que pour l'instant, il n'y avait pas eu de suite, en tout cas judiciaire, pas de sanctions. Est-ce que vous partagez son pessimisme ?
Oui, c'est des rapports, il y en a déjà eu dès l'époque que M. Kabila était au pouvoir et tout le monde, il y avait toujours eu des rapports. Il y a eu même son ancien ministre de la Justice, le Zolobane, qui dénonçait, mais il n'y a jamais eu des sanctions. Peut-être que le juge, en voyant le nom de la famille Kabila au sein du rapport, avait peut-être peur de s'attaquer à eux, peut-être. On ne sait pas avec ce nouveau régime s'ils auront encore cette peur là ou bien ils auront le courage tant que M. Kabila n'est pas au pouvoir pour saisir du dossier et les attaquer en justice.
Est-ce que vous pensez que ces révélations peuvent servir à quelque chose même s'il n'y a pas de poursuite ?
Je pense qu'il y aura des poursuites parce que c'est un nouveau régime. En plus, ils ne sont pas en coalition pour peut-être sursoir sur des problèmes, pour sursoir sur des sanctions, mais comme ils ne sont plus en coalition, je pense qu'ils vont sévèrement sanctionner, selon la loi, les auteurs des actes mafieux. Normalement, ils doivent, parce que si d'abord Vital Kamerhe, qui a été proche bras droit de M. Tshisekedi, a été est en prison pour détournement des fonds. Je ne pense pas que le camp de M. Kabila sera épargné.
Merci Olivier d'avoir été avec nous et d'avoir commenté donc ces révélations Congo Hold Up. On va prendre un autre appel, celui de Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel, est-ce que vous m'entendez ? Visiblement, la ligne a coupé. Jean-Michel, vous nous aviez envoyé des questions. Je vais les lire pour vous, puisque vous les aviez données au standard. Est-ce qu'on sait si ces malversations ont continué après le départ de Joseph Kabila du pouvoir, Sonia Rollet ?
Alors, oui. Dans l'ensemble, c'est-à-dire on a quelques traces sur l'année 2019 effectivement qui a continué à avoir des malversations. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand même une partie des personnes qui étaient en position de le faire ou qui l'ont fait dans les années précédentes, ben, il y a eu un nettoyage qui s'est opéré et notamment Francis Selemani a été promu, on va dire, au siège. On ne sait pas s'il y travaille toujours puisque le siège ne nous a pas répondu, mais en tout cas à l'époque il y avait une annonce d'une promotion de Francis Selemani, donc le frère adoptif de Joseph Kabila, à la BGFI en plein scandale. D'autres, on avait vu aussi, que, et on le voit très bien dans la fuite de documents, qu'il y a un certain nombre de personnalités qui disparaissent, mais que, pendant la phase de nettoyage, il y a encore de l'argent qui s'en va, oui, effectivement. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans cette banque. On sait en tout cas que ce n'est pas les premières révélations qu'on fait sur des banques au Congo. On a aussi fait des révélations sur Freeland First Bank, sur Access Bank aussi, sur base souvent à chaque fois de lanceurs d'alerte, dans ces deux cas en tout cas. Et c'est vrai que, y compris cette année, on a fait ces révélations sur la Freeland First Bank, à notre connaissance en tout cas, on n'a pas vu de sanctions. On n'a pas vu de sanctions non plus ou de remplacement des dirigeants de la banque sur ces banques-là. Donc ça fait partie aussi des situations. On attend aussi de savoir ce que vont faire les autorités.
Pas de sanctions et des opérations douteuses qui ont continué donc après le départ du pouvoir de Joseph Kabila. On va répondre à une autre question. Esbon, bonjour.
Bonjour, Madame Conteneur.
On vous écoute.
OK. Dans les affaires Sud-Oual et l'entreprise générale d'alimentation Equal, on parle de 138 et 43 millions de dollars au total. Sait-on à quoi a servi tout cet argent?
Sud Oil et Egal, c'est vrai que ce sont des noms qui reviennent extrêmement souvent dans tout ce système de détournement. Sonia Rollet, est-ce que vous avez trouvé des indications sur la destination de ces sommes ?
Alors oui, on a suivi les sommes autant qu'on pouvait, en tout cas autant que cette fuite à la BGFI pouvait nous permettre de le faire. Et quand même, on est arrivé notamment à savoir où partait l'argent, vers quel pays et autres. On sait que, par exemple, Francis Selemani s'est acheté des propriétés, alors qu'il y en a en Afrique du Sud, qu'il y en a aussi aux États-Unis. On sait aussi qu'une partie de l'argent détourné d'Egal, par exemple, a servi à financer la rénovation du yacht, qui est le yacht Enigma, qui est considéré comme étant attribué à Joseph Kabila, même s'il appartient en fait, ou en tout cas on nous dit qu'il appartient à d'autres personnes. On sait aussi que cet argent a servi à financer l'arrivée d'animaux, par exemple, pour le parc de Sélé. Ça aussi, on a des traces de ça. On a aussi des traces d'organisations internationales qui avaient documenté le fait qu'une partie de ces animaux étaient morts en route ou des conditions d'acclimatation. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'argent partir vers des sociétés qui sont des boîtes aux lettres, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. On voit beaucoup d'argent partir en liquide, à la fois déposer et retirer des sommes vraiment colossales. Il y a par exemple un collaborateur de Francis Selemani qui va retirer 53 millions de dollars, un inconnu, David Ezekiel, que vraiment personne ne connaît, qui est un collaborateur tanzanien du directeur à l'époque de la générale de la BGFI. Voilà, ça c'est vraiment un problème énorme qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de trop d'argent liquide et que ça c'est pas facile à tracer.
Merci à tous, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir réagi à ce scandale de détournement d'argent public. Merci à notre enquêtrice Sonia Rollet du Service Afrique et à Jean-Jacques Lumumba, lanceur d'alerte, d'avoir répondu à nos auditeurs.